Bonjour, bonsoir aussi à ceux qui écoutent tard la nuit, peu importe où vous soyez. Donc, me voilà reparti pour un nouveau podcast. Donc, je suis d'abord Patrick Krizoziak, je suis coachabilité en coaching individuel, coaching d'équipe et coaching de carrière. Je viens à vous maintenant là pour vous parler de choses assez surprenantes qu'on appelle le symptôme de l'imposteur et le fantasme de son N plus 1. Donc ça va être fort intéressant et j'en vois certains qui vont s'étonner, mais c'est vrai que ce sont des postulats, autrement dit des vérités, hein, en coaching un postulat est quelque chose qu'on vérifie, que l'on rencontre assez régulièrement. Et donc si je vous en parle, c'est surtout pour vous aider à essayer de comprendre que tout ça, on peut malheureusement le rencontrer à plusieurs occasions et ça implique des conséquences qu'on voit apparaître comme des manques de confiance en soi, ça des conséquences de conflits, de tensions, de malentendus, ça entraîne tout un tas d'escalades ou de croyances, de perceptions et de points de vue qui finissent, comme on dit, mal en général. Ou en tous les cas, pas toujours très bien. Donc, qu'est-ce que ce symptôme de l'imposteur? On l'appelle même le complexe de l'imposteur. Qu'est-ce que ce fantasme de ce dirigeant? Bien, d'abord, pour vous en parler, il faut que je vous parle de la peur. Très souvent, et encore là, cette semaine, donc on est vendredi soir, j'ai la tête bien remplie. Donc, je vais vous faire part de certains échos. Et finalement, je me dis que ça peut vous aider, certains d'entre vous. Donc, je parle de la peur parce que elle est à l'origine de beaucoup de malentendus dans les relations entre un hiérarchique, un subalterne, pas seulement, mais c'est surtout ce que je vois par rapport à la relation N plus 1. Donc, ceux qui ne savent pas ce qu'est N, c'est collaborateur et N plus 1, évidemment, c'est un hiérarchique par rapport à soi. Donc, quand on se situe dans l'entreprise, en particulier, j'ai pas mal de gens qui sont beaucoup en attente de signes forts de leur hiérarchie, comme si eux se sentaient un peu inaptes à aller demander à un hiérarchique ou clarifier quelque chose à un hiérarchique. Alors évidemment, je voudrais pas faire de généralité. Mais pour certains, vous pouvez vous reconnaître parce que je trouve que c'est quelque chose qui revient de façon récurrente et pas que maintenant, mais ça fait quelques années que je l'entends. Donc j'entends par là des gens qui ne vont pas forcément être très clairs quand ils vont s'adresser à leur N plus 1 ou qui n'osent pas franchir la porte du bureau du N plus 1. Et ça entraîne quoi? Eh bien, ça entraîne des malentendus à terme, puisque alors qu'on a besoin de franchir la porte d'un N plus 1, on va commencer à se dire à quoi ça sert, parce que de toute façon, il ou elle a tendance à me demander quoi, mes tableurs Excel, il veut rien entendre parler d'autre, lui, il a tendance à pas savoir pour me répondre à mes besoins, et donc à quoi ça sert d'aller le voir. Bien, malheureusement, moi, je vois des gens qui finissent par avoir un jugement de valeur vis-à-vis de leur N plus 1. Je vois des N plus 1 qui ont moins confiance dans des personnes qui ne viennent pas les voir. Donc ça entraîne, si vous voulez, alors, un éloignement, un évitement. Et on voit s'installer petit à petit des méfiances, des attentes respectives, mais toujours suivies de méfiance. Et avant de vous définir ce complexe de l'imposteur et ce fantasme de son N plus 1, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle a pour mérite, pour ceux qui connaissent ce qu'est l'intelligence émotionnelle, il y a un très bon livre de Coleman que je vous recommande. J'en ferai pas plus de publicité ici, sinon on va m'accuser de quoi que ce soit. Mais en fait, l'intelligence émotionnelle est intéressante parce que c'est à la mode. Donc on parle d'intelligence depuis des années, mais aussi d'intelligence émotionnelle. Tu devrais faire preuve d'intelligence émotionnelle, tu devrais ceci, tu devrais cela. Donc j'ai des gens qui se plongent là-dedans, mais ils ne savent pas s'en servir. Donc je vais essayer de vous dire à quoi ça sert avec des exemples concrets. Et c'est en rapport avec le complexe de l'imposteur et le fantasme du dirigeant. Eh bien, quand vous avez en vous, je dirais, le soi parfait, la volonté d'aller au résultat, dans ce qu'on attend de vous. Il y a beaucoup de gens, quand ils bossent, ils sont dans l'attente de dire, je me donne à fond, j'y vais à fond, et puis ils n'ont aucun retour. Ils n'ont aucun retour et ils vont mal le prendre. Mais quand je les ai dans mon bureau, je suis assez toujours en train de les questionner sur le fait de dire, mais toi, tu as des attentes vis-à-vis de lui, mais est-ce que toi, tu as franchi la porte de son bureau pour aller ne serait-ce que lui remonter les informations de ce que tu fais ou de ce que tu fais pas ou des besoins que tu peux avoir? Et souvent, la réponse que je peux avoir, c'est non, je préfère pas aller le voir. Donc l'intelligence émotionnelle nous explique que quand il y a une peur, ça peut être une forme d'inhibition, hein, la peur de penser que si je franchis la porte, le seuil de la porte de moins N plus 1 pour lui demander un avis, je serai jugé. Peur d'aller le déranger. T'as plein de raisons. Eh bien, cette peur en intelligence émotionnelle, elle peut servir pour un coach comme moi à expliquer que justement, là, on est dans une situation dite d'évitement. Et donc, le symptôme, quand on veut bien voir ce que c'est qu'une émotion en soi, donc quand on veut plonger dans son aspect émotionnel, quand on ne la rejette pas, quand on est vraiment connecté à soi, on se dit, bah, effectivement, j'avoue que mon boss, je ne suis pas à l'aise, j'avoue que mon corps me parle, ma gorge se serre, donc je vais éviter d'aller le rencontrer. Et bien, sachez que l'évitement, c'est le symptôme de ce qu'on appelle la peur. La peur, comme un animal qui aurait peur d'un autre animal, eh bien, va l'éviter. Alors, surtout quand l'animal est plus grand. Vous voyez, donc l'intelligence émotionnelle a ce mérite d'avoir clarifié et classé en fait nos émotions, nos besoins en fonction du fonctionnement du cerveau, en repérant nos peurs ou les émotions, donc que sont les peurs, sont un signe. Et ce signal veut dire, et ça je le dis à tous les gens que je coach, si tu évites ton boss, c'est qu'il y a un phénomène en toi de peur. Donc évidemment, on va toujours me prouver l'inverse. Ou alors on va me décrire un boss qui n'est pas ceci, pas assez cela. Mais la peur de franchir le bureau parce qu'on a peur d'être jugé, si on va lui dire qu'on n'y arrive pas, c'est une émotion. Et cette émotion, elle est reliée à un besoin de partager. Et un nombre de gens incalculables qui ont besoin de partager ne vont pas franchir le seuil de cette porte du N plus 1. En fonction des pays, des cultures, je m'aperçois qu'en France, il y a une forme de pyramide un peu plus saillante qu'en Suisse francophone, qu'en Belgique francophone, que je connais, pour y intervenir aussi, ou en Angleterre. Donc le monde anglo-saxon est moins pyramidal, les Belges le sont un peu moins que nous. Ici, il y a un respect de la hiérarchie qui en vient parfois, alors ça ne va pas plaire à certains, mais je le dis au commandement. Donc, pas forcément dans l'esprit de celui qui a le pouvoir, mais dans l'esprit de celui qui attend de son patron des décisions. Or, la décision ne venant pas parfois, ne venant pas toujours, j'entends beaucoup de critiques des N-1 vis-à-vis de la N-1. J'entends qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne sait pas décider, qu'il ne connaît pas la réponse que je viens chercher. Oui, il y a des projections. Donc, finalement, les personnes qui se font une idée de leur N plus 1, de leur boss comme ça, finissent par s'éviter. Et pas forcément le N moins 1, mais je vois des N plus qui courent, qui vont vite, qu'on n'attrape pas facilement. Et bien, j'ai envie de vous dire, réfléchissez lorsque vous avez tendance à éviter certaines situations, éviter certaines personnes, sans aucun doute que l'émotion et les signaux que vous pouvez avoir, même des sensations physiques, ce sera un phénomène de je n'ai pas envie de le rencontrer, je n'ai pas envie de le croiser, parce que j'ai peur qu'il me questionne sur quelque chose que je ne connais pas, sur une solution que je ne suis pas capable de lui donner. C'est ainsi que j'ai vu DN et N plus 1, N moins 1, commencer à rentrer dans une spirale de jugement sur l'un et sur l'autre, évidemment sans que l'un se le dise, puisque les politesses en entreprise existent, mais la distance étant marquante. C'est donc, je vous le dis, en logique émotionnelle, un phénomène de peur. Alors pourquoi je vous parle de cette distance? C'est parce qu'en fin de compte, là, je vais vous parler de ce que l'on appelle donc les gens N plus 1. Donc ça peut être vous et votre patron. Donc le patron que vous aurez sera votre N plus 1. Et puis pensez aussi, dans ce que je vais vous expliquer, à vos collaborateurs pour lesquels vous êtes un N plus 1. Donc qu'est-ce que c'est que le complexe de l'imposteur? Bien, c'est que le constat que l'on fait, c'est que les managers, en fait, se voient confrontés de nos jours, surtout, et puis ça l'a toujours été, mais à leurs limites et leurs peurs face au changement, face au chaos, face au stress, à l'incertitude, aux résultats, à la pression, à la complexité d'enjeux. Et souvent, je vois des clients, hein, on appelle ça un client dans mon bureau, qui pensent qui me disent bah, qu'ils pensent qu'ils seront évalués par leurs collaborateurs N-1 par la connaissance qu'ils ont des sujets. Donc c'est là où j'en vois certains rentrer dans l'étude approfondie de dossiers, alors que finalement, il y a peut-être autre chose à apporter à vos collaborateurs que l'étude approfondie des dossiers, même si vous pensez que votre collaborateur va vous juger sur la connaissance que vous avez, parce que de toute façon, ce n'est pas tout à fait votre rôle, et je vous expliquerai pour quelle raison. Ce que je veux vous dire, c'est que l'imposteur, c'est quoi? L'imposteur qu'on peut avoir en nous quand on est en situation de diriger, c'est qu'en fonction de la connaissance que vous avez d'abord de vous, de vos aptitudes, de vos atouts, de vos limites, hein, de votre comportement, de vos attitudes générales, eh bien, on pourrait entendre dans un coin de votre tête, je suis arrivé à mon poste, comme je l'entends, mais je ne sais pas ou je ne sais plus si je pourrais être compétent. J'entends des gens me dire, en fait, je ne sais pas si je suis assez compétent pour occuper ce poste-là. Je vous le dis, c'est ce que j'entends. On le voit aussi en transition de carrière, quand une personne vient me voir, donc évidemment, elle quitte son poste. La peur au ventre, finalement, hein, même si elle se rassure comme elle peut. La crainte de dire, est-ce que je retrouverai? Est-ce que je retrouverai quelque chose d'aussi intéressant? Est-ce que je serai à la hauteur dans la prochaine entreprise? Et souvent, donc, quand on a enfin débloqué quelque chose qui est le retour à l'emploi. Le retour à l'emploi est là. Eh bien, j'ai de nouveau un coup de fil qui me dit, Patrick, maintenant, est-ce que je vais réussir dans mon poste? Ben, c'est ça le complexe de l'imposteur. Vous voyez, le monde de l'entreprise est tellement complexe que vous mettez même les meilleurs, les personnes les plus compétentes, qui vont avoir un sentiment, une crainte. Ce n'est pas anodin ce que je vous dis. Chacun le vit. Je l'ai vécu dans mon métier de coach, je le vis encore. Lorsque j'ai un appel très important, premier réflexe, c'est est-ce que je peux, est-ce que je suis la bonne personne? Et quand j'ai les pieds, je mets les pieds dans l'entreprise, parfois il m'arrive de dire, je ne me sens pas tout à fait à l'aise. Ben, c'est ça le complexe de l'imposteur. Mais ce complexe de l'imposteur, évidemment, on ne va pas se l'avouer. Évidemment, on ne va pas en parler. Évidemment, on ne va pas dire qu'on a peur. Bien, c'est surtout que ça se voit, comme la fuite montre que l'on a peur. Eh bien, le complexe de l'imposteur, c'est le, vous savez, le retranchement. L'attitude défensive de se protéger des autres pour que les autres ne viennent pas nous chercher dans le sens où parfois on n'a pas la réponse. Donc je vois ainsi des N plus 1 fuir, se cacher, mettre de la distance avec leurs collaborateurs, parfois mettre de la colère. Quel est l'avantage d'être un homme en colère? Ben, c'est que quelque part, les gens viennent moins vous voir, puisqu'on sait que vous êtes un homme en colère. C'est aussi symptomatique d'une croyance que le manager à qui je m'adresse là peut avoir. Donc je demande à mes coachés de leur dire, sois conscient que tu ne sais pas tout, sois conscient que tu n'es pas un homme parfait, et alors, tu as été choisi dans le poste de toute façon, ils t'ont sélectionné, il y a eu une sélection d'enfer, il y a eu des cabinets de recrutement, il y a de l'assessment, il y a tout ce que tu veux, ils t'ont choisi toi. Donc retire-toi de la tête que tu n'es pas limité dans tes compétences. Maintenant, c'est une question de 100 premiers jours, c'est une question de faire connaissance avec le poste. Mais au-delà des 100 premiers jours de prise de poste, je vois des gens qui ont toujours ce complexe. Et alors, c'est surtout ce que je veux vous dire là, c'est qu'absorbé par le souci de protéger ce territoire finalement pour cacher, hein, pour s'abriter, de pas être pris au jeu de je ne sais pas, eh bien, c'est surtout les surréactions qui sont intéressantes à voir. Par exemple, tout ce qui est ne pas dire, ne pas tout dire, imposer, c'est comme ça, pas autrement. Ne pas être là où on vous attend, ne pas venir. Écoutez ça, être en retard. Annuler une réunion. Rester flou. Ne pas s'engager. Comme par hasard aussi, oublier. Eh bien, dites-vous que ça peut être une forme tactique. Bon, je ne sais pas si c'est tactique ou stratégique, mais ça sera très inconscient de vous dire, en fin de compte, je ne suis pas très à l'aise dans mon poste et ça m'arrange de mettre une distance symbolique, comme vous savez, la Manche entre la France et l'Angleterre. S'il n'y avait pas eu la Manche, on se serait encore plus tapé dessus. Bonjour au passage à nos amis anglais. Donc la Manche est protectrice. Eh bien, la distance devient une protection. Or, moi, ce que j'entends de la part des N-1, c'est il est insaisissable, mon patron. Il ne répond pas à mes questions. Et de toute façon, j'ai essayé 3 fois. Comme il ne répond pas, je ne vais plus le voir. Donc, quelle est mon attitude par rapport à N plus 1? Ben, je lui explique que il a à travailler sa sécurité ontologique. Autrement dit, s'il est à ce poste-là, c'est pas pour rien. Et je peux vous garantir qu'il y a des personnes qui n'en sont pas certaines. Donc évidemment, on retrouvera le phénomène de fuite, le phénomène d'évitement de la réunion du vendredi soir où je me souviens avoir coaché une collaboratrice il y a quelques années, donc il y a prescription, dans un grand groupe qui me dit je suis certain que mon boss, de toute façon, n'est pas compétent, c'est pour ça que je ne le respecte pas. Et je vais lui prouver son incompétence à la face du monde. En gros, c'était ça. Donc réunion, urgence, un vendredi soir, à sa demande à elle, auquel lui répond évidemment qu'il sera présent, mais il n'est pas venu. Donc la semaine d'après, quand moi je l'ai revue, elle était très en colère. Et j'ai dû la calmer en lui disant, mais qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, il n'est pas venu? Est-ce qu'à votre avis, quand vous recevez comme ça, quelque chose qui vous semble un peu menaçant, est-ce que vous avez envie de venir? Mettez-vous à la place des personnes, même pas forcément. Donc j'en viens aussi à ce postulat, cette fois-ci, du N vers son N plus 1. C'est pas ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur qu'on peut tous vivre, tous avoir, et qui sera encore vu par la distance que vous mettrez avec vos collaborateurs, et qui se travaille, je vous le garantis. Eh bien, sachez que votre N-1, donc vous, quand vous êtes un N par rapport à votre N-1, un deuxième postulat de coaching s'appelle le fantasme de perfection de son N-1. Ça veut dire qu'en fin de compte, tout collaborateur, dans son rêve le plus fou, aspire à avoir en son chef, si vous voulez, la perfection. Autrement dit, je vois dans beaucoup d'équipes un non-respect de son chef, après bien sûr. C'est pas spontané, c'est quelques mois sont passés, c'est l'image que ce chef peut renvoyer. Et on me dit, mais en fait, pourquoi je ne le respecte pas? C'est que ce chef, eh ben, le chef, pour moi, il doit savoir. Vous voyez? Et donc ça se classe dans la catégorie en coaching pur du fantasme, mais du fantasme inconscient présent qui est présent chez chacun d'entre nous. Posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, quelle image avez-vous de votre N plus 1? Et souvent, on répondra, le chef sait. Et c'est pour ça qu'il est chef. Alors, ma question, c'est si le chef ne sait pas, qu'est-ce qui se passe? Grand blanc. Un grand blanc. Mais je réponds à leur place. J'ai dit, tu te mets à juger ou à porter des jugements de plus en plus durs sur lui. Parce que je t'entends de rendez-vous en rendez-vous. Puis la personne, bon, évidemment, on n'est pas d'accord tout de suite, mais c'est vrai que certaines personnes vont peut-être saisir des occasions en réunion pour montrer à ce boss qu'ils en savent plus que lui. Certains N-1 vont commencer à se passer de ce boss. Donc vous voyez l'écart déjà. Si vous tombez sur un patron qui effectivement prend un poste, ne se trouve pas forcément lui-même sécurisé pour plein de raisons, même de vie privée, hein, et on passe tous par des cycles de haut et de bas, il peut y avoir ce moment où on n'a pas envie forcément d'assumer toutes ces réunions, on peut passer par un mauvais moment. Eh bien, si en plus votre collaborateur, lui, se met à se dire que comme vous ne savez pas tout, il se passe de vous, ça crée le grand fossé. Oui, ça renforce ce grand fossé. Et ça, quand on a des émotions qui surgissent, donc des jugements avec de la colère, vous pouvez être sûr que derrière, ce n'est pas juste un jugement comme ça qu'on fait à l'emporte-pièce. Je vous le dis dans le mille, c'est de la peur. L'un et l'autre ont peur. Le N plus 1 a peur d'être jugé par ses collaborateurs et les N vis-à-vis de leur N plus 1, eux, eh bien, n'hésitent pas à estampiller quand ils sont déçus. Alors, je ne parle pas de tout le monde, mais j'ai quand même une grande partie de gens qui attendent de leur chef la clé, vous voyez, la solution. Et quand effectivement le chef, entre guillemets, hein, le chef, ne m'aide pas, il ne connaît pas mon domaine, eh bien il est illégitime. Ça va jusque ce mot-là que je peux entendre. Je ne le reconnais pas. Alors dans certaines entreprises, les mobilités sont lentes. Dans d'autres, elles sont plus rapides. Donc peut-être que certains d'entre vous se diront, je raconte un peu n'importe quoi. Peut-être qu'ils partiront au bout de 18 mois, ce N plus 1. Peut-être que c'est vous qui bougerez. Mais dans des structures plus industrielles, dans lesquelles les choses sont plus lentes, on peut avoir des gens que j'ai reçus qui ont la même personne au-dessus d'eux pendant 3 ans, 4 ans, et moi je les vois très malheureux. Et qu'est-ce que je viens faire? Eh bien, j'interviens finalement sur la communion, sur la réunion des deux, où je vais travailler sur les attentes inconscientes qu'a la personne dans mon bureau vis-à-vis de son N plus 1, en disant, est-ce que tu exagérerais peut-être pas un petit peu en attendant tout ton chef? Autrement dit, tu bénis ton patron du titre de chef auréolé de la victoire si tu peux l'admirer. Et vous voyez, ça, c'est pas très positif, c'est pas très favorable, dans le sens où, eh bien, quand vous ne pouvez pas admirer votre N plus 1, c'est les conséquences qui comptent. Moi, je vois des gens qui en font voir de toutes les couleurs à leur patron, qui n'arrêtent pas d'envoyer mail sur mail, de montrer ce qui ne va pas, et s'étonnent plus tard d'avoir encore plus un éloignement avec ce chef. Et puis, en zone 2, en logique émotionnelle, en intelligence émotionnelle, ça c'est la zone 1, c'est l'éloignement qui est une preuve de, si vous voulez, un symbole qui est une émotion de peur entre deux êtres. Eh bien, quand la peur, on n'a pas trop le choix, on doit absolument se côtoyer, on ne peut plus s'éviter, ce n'est pas possible. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une lutte qui commence à prendre place. On n'est plus dans la fuite, on est dans la lutte. Autrement dit, c'est, vous savez, le combat des chefs. C'est, je vais lui démontrer qu'il n'est pas bon, je lui rends, comme lui, il me renvoie la balle, eh bien, enfin, je la renvoie pas, mais je la garde. C'est ce qu'on appelle l'esprit de compétition. Même si ça ne plaît pas à des gens quand je leur dis ça, il n'empêche que le phénomène de colère, donc du collaborateur, le phénomène de colère du N plus 1, la colère, c'est un signe dans l'intelligence émotionnelle d'une crainte de ne pas être reconnu. Donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'est éloigné l'un de l'autre, ben, il y a une absence de reconnaissance mutuelle. Or, l'être humain est ainsi, il a besoin de reconnaissance. Nous sommes avant tout des êtres affectifs, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes faits de chair et d'os. Nous sommes faits d'émotions à 80%. Comme certains me diraient, on est fait d'eau à 80%. Sachez que nos émotions, elles nous maîtrisent à 80%. Donc quand on s'est éloigné l'un de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Le fantasme prend la place dans la tête. On s'imagine tout et son contraire. Ça devient effarant. On peut s'imaginer n'importe quoi hors réalité. Et à partir de là, ben, vous voyez des codes. Des codes non pas vestimentaires, mais des codes de parler. Vous avez des coups de colère, puisque l'un ne se sent pas reconnu. Le seul outil dont dispose l'être humain pour exister, c'est le combat. Donc la lutte peut s'affirmer. Vous pouvez entendre taper, vous pouvez entendre taper des pieds, vous pouvez entendre juger, vous pouvez entendre crier, vous pouvez entendre des personnes intimider, faire pression, faire des coups tordus, que sais-je, harceler, être de mauvaise foi, manipuler. Mais vous savez, ces personnes qui sont en colère pouvaient être sûres qu'à l'origine, il y a quelque chose en elles qui tient du symptôme de l'imposteur. Que se passerait-il si cette personne faisait le point sur elle, réellement, en disant « Je suis capable, et si je suis capable de descendre voir mes N-1. Je suis capable d'avoir un N-1 que je trouve peut-être plus intelligent que moi, mais je ne le vois pas comme un compétiteur. » Donc, la colère, n'oubliez pas, c'est un signe pour dire j'existe. C'est un signe qui cherche l'estime de soi. C'est un cri pour lequel on a besoin d'exister. Une personne qu'on licencie sera un homme ou une femme en colère. Il y a dans les premiers temps une lutte, une colère qui se met en route. Vous voyez, quand vous ratez votre train, il y a une colère qui peut se mettre en route. Quand on vous ignore, quand on vous néglige, quand vous avez le sentiment de ne pas être utile, la colère monte. Puis quand la colère malgré la colère, le combat, la lutte, la démonstration que vous prouvez de vous-même, où vous allez prouver votre valeur, mais qu'on vous la reconnaît toujours pas, à un moment donné, il y a une chute. Et la chute, c'est la tristesse. Je vois des collaborateurs partir en burn-out, en arrêt de travail, se mettre en retrait, devenir attentiste, ne plus faire grand-chose, ne plus s'investir, vouloir rentrer de nouveau dans l'harmonie du cadre, ne plus se distinguer, ne plus rapporter de valeur ajoutée, ne plus faire preuve d'initiative parce qu'il semble qu'ils pour eux, eh bien, ils ne sont pas reconnus. Donc, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Dans l'intelligence émotionnelle, vous trouverez ces symboles, ces symptômes qui prouvent qu'effectivement la peur s'instaure. Eh bien, quand on fuit son collaborateur, quand on fuit son N plus 1, quand on veut l'éviter, quand on se dit ça m'arrange, il n'est pas là, quand on annule les réunions, quand dans un service, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de réunion, c'est que ça arrange tout le monde, y compris celui qui l'annule. Mais quand on veut vraiment être clair et authentique avec soi, observez du côté des peurs. Qu'est-ce que vous craignez à l'origine? Parce qu'une crainte, on peut en parler. On peut aller voir ses collaborateurs, on peut aller voir son patron, lui dire, tu sais, quand je suis avec toi, voilà, je me sens pas forcément à l'aise parce que je me sens parfois remis en question quand je sors de ton bureau. On a le droit de parler comme ça, à condition évidemment que ce soit fait dans un cadre respectueux. Mais plutôt que de rester sur cet écart de fuite, hein, d'évitement qui va se transformer en colère, en combat, où là c'est difficile de revenir en arrière, eh bien on peut se parler. Donc c'est cet exercice en fait d'appréhension commune, hein, d'un niveau supérieur qui ne se sent pas forcément à 100% dans son poste, donc va créer de l'évitement. Et à l'inverse, si vous tombez sur des N-1 ou N-1 qui, au contraire, attendent son supérieur hiérarchique, on me l'a encore dit la semaine dernière, j'attends de l'admiration de mon N-1 pour pouvoir bien collaborer avec lui, sachez que ça existe. Donc moi, ce que je vous propose, c'est simplement de sortir de ces non-dits-là, de repérer quand vous avez, même quand votre corps vous appelle et vous fait battre la chamade, inversée pour vous dire « Ouh là là, c'est difficile avec elle, c'est difficile avec lui », je vous propose une chose, c'est parlez-en à cœur ouvert, c'est beaucoup plus facile. Ça aboutit sinon à de la non-collaboration, des conflits ouverts, et je vous l'ai dit, après la colère, vient la tristesse. Et la tristesse, eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines entreprises de collaborateurs démotivés. Voilà, je voulais vous amener ce sujet-là. Je ne sais pas si ça a pu vous parler. Si vous souhaitez m'en parler, n'hésitez pas à me questionner. On me trouve sur les réseaux sociaux, en MP sur LinkedIn, dans Facebook aussi, ou un simple mail. Donc, je suis Patrick Crisosiac et vous me trouverez donc sur mon entreprise qui s'appelle SPK Energy Coaching. Et peut-être une bonne réécoute, une bonne écoute. Peut-être de ne pas être d'accord avec ce que je vous ai dit, mais je suis tout à fait prêt à vous expliquer avec plus de clarté encore ce que je vous ai dit là, ce jour ou ce soir. Merci à vous, à bientôt. Bonjour à tous, ou bonsoir, peut-être que vous m'écoutez la nuit ou le soir. Donc, je suis Patrick Crisosiac, je suis coach individuel et d'équipe. Et mon objectif, c'est d'aider les entreprises et leurs équipes et leurs collaborateurs à un travail plus efficace en partageant plus. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui pour ce 9e podcast. Ça faisait un certain temps que je n'en avais pas fait. Je préfère en faire quand j'ai des idées claires. Quand l'expérience est passée par là, donc c'est le moment aujourd'hui. Je vais donc vous expliquer ou vous parler de ce qu'on appelle par le besoin de changer le style de management dans les entreprises. J'ai encore lu, entendu sur LinkedIn, sur des scènes de lecture, le fait que le management top-down n'est plus efficace aujourd'hui parce que le monde change. Excusez-moi, mais moi ça fait 35 ans ou 30 ans que je travaille. Si j'inclus tous mes stages de débutant, j'ai toujours entendu que le monde a toujours changé et qu'on était obligé de changer. Donc ça, ce sont des propos que je comprends, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça change, ça a toujours changé. Donc nous sommes en 2021 et aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre. Donc, bonjour à tous, je vais donc vous parler de ce fichu management top-down qui serait donc remis en question. Alors moi, j'accompagne des leaders et on me dit, écoutez, moi, je suis à ma place depuis des années, et je pratique le management, j'ai mes résultats financiers sont excellents. D'ailleurs, sur les 7 sites industriels de production que l'on a ou les unités de service que l'on a, eh bien, j'obtiens de très bons résultats. Mon management est certes directif, autoritaire, on peut dire ça. Mais j'arrive à créer avec mon comité de direction une cohésion dans les équipes, ça marche bien, ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui fait que j'aurais envie de me remettre en question? Donc vous voyez, quand j'ai ces personnes-là devant, bah, c'est clair que si elles n'ont pas de demande en coaching, je ne peux pas faire grand-chose. Alors la demande, ce serait quoi? La demande, c'est ça se passe moins bien, il y a moins d'efficacité, ma RH, mon DRH me sonne à la porte, les syndicats commencent à me dire qu'on a des difficultés, la médecine du travail s'en mêle, il y a des gens qui sont fatigués, le Covid ou la Covid est passée par là. Effectivement, je vois que les gens sont plus déstabilisés, en stress, ils débordent de travail. Alors, ce sont peut-être des symptômes qui peuvent vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire si mon management a fonctionné de toute façon ? Qu'est-ce qui fait que moi, je continue quand même à pas vouloir changer mon style? Est-ce que c'est moi qui suis responsable de ça? Les gens sont responsables en dessous, en dessous, en dessous, et encore en dessous, niveau moins 3, moins 4. Les opérationnels travaillent, ils savent ce qu'ils font. Est-ce que je suis responsable des gens qui sont en burn-out quand je suis un leader? Alors, je dirais, il y a une part que vous pouvez faire évoluer, c'est que de toute façon, quand il y a une situation effectivement de grande pression de travail ou des gens qui vous disent qu'ils travaillent seuls, il y a un indice pour un coach, c'est que travailler seul, c'est si je travaille seul par rapport à un projet qu'on me donne, c'est que je n'ai pas osé confronter celui qui me donne le travail, c'est-à-dire clarifier avec lui ce qu'il me donne comme travail. Je n'ai pas osé me positionner vis-à-vis de lui. Si je suis débordé de travail, l'autre hypothèse aussi qu'on fait en coaching individuel, c'est que je ne partage pas assez non plus avec mes collègues. Donc je suis rattaché directement en râteau à mes hiérarchies. Dès que j'ai un besoin, je vais le voir. J'en fais un homme solution. Mais je n'ai pas forcément creusé avec mes collègues ou je le fais avec des gens à qui effectivement ça passe. Mais la circularité dans une équipe, eh ben, c'est peut-être pas culturel dans la maison. Donc on a des gens qui sont de très bons professionnels, mais qui travaillent plutôt seuls sur un nouveau projet, qui vont y passer le week-end et le lundi, ils vont revenir avec des idées. Que serait la vie de ces gens-là s'ils étaient effectivement amenés spontanément à avoir un réflexe de communiquer avec leurs pairs, les pairs des autres départements, des autres business units. Si maintenant dans une entreprise, on a plutôt des silos, donc des départements un peu jaloux, autonomes et qui sont peu en interrelation les uns avec les autres, effectivement, moi, j'invite le leader d'une entreprise à se remettre un peu en question à ce sujet-là en disant ton job, ton rôle, c'est peut-être de veiller à ce que le travail collaboratif puisse se mettre en place de façon à ce que tu aies moins de gens, pourtant des champions, qui te disent craquer ou que la médecine de travail t'en informe. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce management effectivement top-down qui serait remis en question de plus en plus avec eh bien, l'ambiguïté économique, les contradictions, les différents messages, où donc il faudrait mieux travailler à l'agilité, le terme en vogue, c'est ça, dans une entreprise qu'à la fixité des choses. Oui, je suis d'accord avec ça. Je l'entends. Il faut que vous puissiez entendre aussi, c'est important, pas il faut, mais c'est important que ceux qui sont leaders l'entendent. Alors un leader, c'est aussi un manager d'une équipe, hein. Vous êtes un leader pour vos équipes, même si vous n'avez que 10 personnes, hein. Donc ce que j'ai comme témoignage, ben, c'est que on a des personnes qui sont dans l'incapacité, dans un système un peu droit, un peu fixe comme ça, qui sont incapables de se donner la permission d'aller voir ce leader. J'ai encore entendu des personnes récemment m'en parler. Il y a de la peur du jugement, ce que l'autre va en penser si je viens le voir pour lui dire que je ne suis pas satisfait. Cette expression de besoin qui aboutit à une demande faite à quelqu'un, elle n'est pas évidente pour une grande partie des managers qui sont managers par expérience, parce qu'ils ont été de très bons experts. On leur donne les clés de la voiture, on va dire ça comme ça, dans lesquelles il y a 10-15 personnes. Ce ne sont pas pour autant des personnes qui ont appris à faire une demande et à se positionner vis-à-vis des hiérarchiques. Donc ce sont plutôt des gens attentistes, comme beaucoup, qui vont attendre un signe de reconnaissance positive qui va les déglacer, qui va faire fondre un peu cette glace et qui va leur permettre d'aller peut-être faire une demande à l'autorité. Maintenant, si cette autorité prend des positions un peu dures, des décisions, n'envoie pas beaucoup de chaleur, on va dire ça comme ça, ne manifeste pas non plus dans l'échange avec CN-1, CN-2, voire CN-3, surtout si le leader est accessible et souvent en bas, mais que quand on commence à parler avec lui, on sent que j'ai intérêt à aller dans son sens, parce que quand il me parle, c'est plutôt pas un échange, mais c'est plutôt quelqu'un qui va argumenter très bien, hein, très bien argumenter, parce que c'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui n'arrive pas par hasard à ce poste-là. Donc si c'est quelqu'un qui argumente et qui est mon autorité, je ne vais pas pouvoir, entre guillemets, l'interpeller, en placer une. Donc j'ai beaucoup, 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 je vous le dis, beaucoup de gens middle, voire le premier cercle qu'on appelle le comité, hein, de direction d'un leader, qui me disent, ou simplement même, je reprends des opérationnels me disant que leur manager, même jeune, 35 ans, ne les écoute pas. En prenant en compte cette histoire-là, je me dis c'est vrai que celui qui a les clés de l'autorité a tendance à plutôt argumenter plutôt qu'à écouter. Alors, il y a des formations en management qui vont privilégier l'écoute, l'écoute active, mais pourquoi? Vous voyez, on apprend d'autant mieux qu'on a du sens à apprendre. Donc, le sens à apprendre, c'est que le management directif, c'est surtout du management vu par les gens comme des gens, des managers, des leaders qui vont imposer. Imposé par leur statut, leur pouvoir évidemment, mais imposé par des argumentaires très ficelés. Et en fin de compte, j'ai une dame récemment dans un coaching individuel qui me dit effectivement, j'ai un peu de difficulté à remonter vers ces personnes qui sont plus managers que moi. Elle est manager, mais elle a au-dessus d'elle encore d'autres managers, hein. Évidemment, c'est une pyramide. Et elle m'explique que la raison, c'est qu'elle ne se sent pas. De toute façon, fiable quand elle va les voir, si elle n'a pas chiadé sa demande, si elle n'a pas creusé sa demande, si elle n'a pas fait un dossier présentable. Donc la spontanéité va être absente de ce type de relation, alors que c'est dommage, c'est dans la spontanéité qu'on crée l'émulation, la stimulation. Donc elle n'y va que si elle est prête, et je parle de dossier chiadé, donc, ce qui ne permet pas. J'ai eu assis un monsieur il y a 2 semaines qui me dit. Moi, je ne ferai une demande à ma hiérarchique ou j'irai vers la hiérarchie avec des idées que si effectivement je me sens parfait. Perfectionnisme. Donc il faut savoir, quand on est un leader, qu'on a des personnes en dessous de soi qui sont beaucoup, beaucoup dans cette impression de si je vais voir ma hiérarchie, je vais peut-être les déranger. Dans ces cas-là, je dois être clair, précis, fiable. Et parce que j'ai peur. J'ai peur d'être jugé, j'ai peur. De qu'on considère comme quelqu'un qui est pas quoi? Assez parfait, voyez? Qui est pas clair, qui a pas atteint de bons résultats, qui doute, qui montre qu'il a des difficultés. Donc ça aussi, on va souvent, je l'entends, ne pas faire de spontanément, de pas vers le haut pour aller prendre un rendez-vous spontané comme ça, avec sa hiérarchie. Parce que si je vais le voir, j'ai envie de parler de mes problèmes et je fais de mon hiérarque quelqu'un qui va devoir donner des idées, alors qu'on me renvoie le fait que si je viens les voir, c'est qu'avec des solutions. Donc ça met beaucoup de gens en stand-by, vous voyez, dans les entreprises. Donc le management top-down, c'est effectivement un manager qui va être directif, vu comme tel, qui peut être vu comme peut-être dur sur des décisions, qui en plus ne fait pas assez de signes de reconnaissance aux gens, même un regard, une considération pour inclure un peu tout le monde, même s'il n'a pas le temps, mais plutôt que de baisser la tête, de sourire, de dire bonjour de loin, de permettre. Donc le management top-down est vu effectivement comme quelqu'un, quand on l'analyse et qu'on le décrypte, qui est vu comme directif pour ces raisons-là, qui ne fait pas de signes de reconnaissance suffisants par rapport à des gens, eux, qui pensent aussi que s'ils doivent le voir, c'est qu'ils doivent le voir que s'ils sont parfaits, l'imperfection n'existant pas dans ce monde. Donc la décision des uns des autres amène un grand fossé. Et en fin de compte, on peut aussi entendre des gens qui me disent, OK, j'ai eu une formation en management, on me demande de développer mon empathie, c'est-à-dire de me mettre à la place de l'autre. Donc si je me mets à la place de mon chef pour savoir pourquoi mon chef vient pas me voir, eh bien j'ai peut-être aussi du mal à me dire que je considère que le chef est timide et que c'est pour ça qu'il ne me fait pas de signe de reconnaissance et que en conséquence de quoi la situation restant froide entre lui et moi, il me fait peur, je n'irai pas le voir, mais aussi parce que ces gens-là au-dessous me disent ça, on me demande de développer mon empathie, donc je me mets à la place de mon chef et je me dis, si je suis à la place du chef, qu'est-ce que j'attendrai de moi? Qu'est-ce qu'il attendrait de moi? Eh bien, on me répond, de toute façon, je peux répondre à ça, mais ils vont me répondre, il attendrait que je sache exactement pourquoi je viens le voir, que ce que je lui dis est parfait et chiadé. Ça, on en a parlé. Donc là, on va travailler la perfection pour venir dire à cette personne qui croit à ça qu'il y a autre chose dans la vie et qu'on peut déranger son chef avec une idée, à condition qu'on lui dise c'est juste une idée. Et peut-être qu'en en parlant avec toi, on peut la développer. Si le chef a aussi investi le champ lui-même de la réflexion personnelle et de la remise un peu en question, parce que s'il ne le fait pas, il claquera les portes à ces gens qui ont une idée. Mais le deuxième aspect qui est intéressant, c'est qu'au-delà de si je me mets à la place du chef, pourquoi il n'a pas de temps à me consacrer, moi j'entends, je ne peux pas croire que le chef, le hiérarchie, le responsable, le directeur, le grand responsable soit timide, ne soit pas parfait. Vous voyez, il y a quelque chose de gênant parce que j'entends le manager middle me dire au-dessus, il y a de l'autoritarisme et à cause de ça, effectivement, je prends conscience en vous en parlant, Patrick, je m'interdis d'aller faire une démarche vers le haut. Donc évidemment, moi, je vais intervenir sur le haut pour leur dire, soyez plus souples, soyez plus flexibles, écoutez, échangez, plutôt que d'argumenter. Si vous argumentez, vous allez les impressionner, vous allez couper court à tout dialogue. Donc donnez de l'importance à ces gens-là. Mais il y a autre chose, il y a le fait que, effectivement, chez des managers middle, même s'ils ont dépassé leur inhibition, et qu'ils deviennent moins parfaits pour faire le pas, ben, me disent qu'ils ont des attentes un peu inconscientes, où ils ne se permettent pas de penser qu'un responsable qui serait responsable peut lui aussi avoir de la timidité, vous voyez, ou ne pas être à l'aise avec les émotions, ne pas être à l'aise dans la spontanéité. Tous les leaders ne sont pas des personnes qui sont des leaders très communicants, avec un charisme exemplaire, chaleureux. Non, ça peut être des personnes qui sont arrivées leaders parce qu'ils ont une grande fiabilité. Mais la spontanéité pour eux est difficile et peut-être que ce sont des gens qui ne sont pas faciles, pour qui ce n'est pas facile les émotions, dire bah, écoute, je te vois en ce moment très occupé, je te vois triste, je te vois déstabilisé, qu'est-ce qui se passe ? Je vois en haut lieu des directeurs ont un peu de mal avec ce type d'expression, ils le font avec leur petit cercle. Mais comme ce sont des personnes qui peuvent paraître froides, moi j'entends des managers middle me dire, mais de toute façon, je ne conçois même pas qu'on peut être un leader et être timide. Donc effectivement, quand je vois une personne qui est dure, froide, qui a pris des décisions qui font un peu froid dans le dos, où on réfléchit à trois fois avant d'aller le voir, ou si on est obligé d'aller le voir, on va lui porter que 15%, 20%, 30% de l'information, le reste on le garde pour soi, on va essayer de traficoter ça ensemble avec mes équipes pour résoudre des solutions. Moi j'entends aussi un besoin, une projection du manager middle, on va dire ça comme ça, par rapport à la hiérarchie, ou d'un opérationnel par rapport à son manager, bah, attendre un peu tout de son leader, de son manager. S'il est devenu manager, s'il est devenu leader, ou si elle l'est devenue, c'est parce qu'automatiquement, elle a quelque chose de plus. Et donc pour eux, ce n'est pas possible de penser qu'un manager, c'est quelqu'un de timide, qui est prude avec les sentiments, et peut-être que c'est pour ça qu'il est froid. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'envoie pas de signe de reconnaissance, de sourire, de regard, qui pourrait penser, si je le croise au restaurant, qu'il me connaît. Si je croise le regard de mon patron, qui est un regard positif, j'irai le voir l'après-midi parce que j'ai un besoin. Or là, j'entendais une femme qui me disait, j'ai même pas eu droit à un regard. Donc je me dis, peut-être que moi, je suis en question et peut-être qu'il ou elle me voit comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait intéressant dans la maison. Réfléchissons à ça. Ce sont que des préconçus, des idées. Vous voyez, des idées qu'on se fait dans la tête. Et quand on parle de formation en management, développer l'empathie, je veux bien, ça peut aider de dire, il y a toi, mais il y a toi et l'autre. À ton avis, si l'autre agit comme ça, c'est pourquoi ? Si tu te mets à sa place. Là, oui, il y a un pas qui est fait. Donc, si je comprends que l'autre est aussi très occupé en ce moment, je comprends pourquoi il ne me reçoit pas. J'arrête de me dire, il ne m'apprécie pas, c'est pour ça qu'il ne veut pas me voir. Ça va régler cette histoire, l'empathie. Mais derrière ça, il y a le jugement, la notion de jugement. Je préjuge le fait que si on est leader, on a dépassé sa timidité. Et du coup, si le leader ne me regarde pas, forcément, c'est que j'ai fait une bêtise, qu'il ne m'apprécie pas, que je ne suis pas dans son cercle. Et donc, ça va contribuer à cet éloignement. Et pendant 2 ans, 3 ans, je n'irai pas le voir et pas le déranger. Donc, jamais j'irai exprimer mes besoins. C'est ainsi qu'on a, dans mes anciens podcasts, j'en parle, dans mes podcasts précédents, de l'inhibition qui fait qu'en fin de compte, on accuse toujours son leader de manquer de ceci ou de cela, mais en fin de compte, c'est sans doute en partie vrai, mais ce n'est pas tout, c'est 50%. Il y a aussi chez chacun d'entre nous le fait de ne pas oser spontanément aller faire une demande, parce que nous-mêmes, on a nos propres craintes de paraître comme quelqu'un qui n'est pas compétent. Donc c'est, le problème, il n'est pas là-haut, le problème, il est aussi en moi. Il n'est pas que là-haut, c'est 50-50. Donc si le leader ne fait pas d'effort d'inclusion, de signe de reconnaissance positif, parce qu'il est lui-même un peu timide, qu'en dessous, vous avez des personnes qui, en fonction de ce qu'ils voient, de cette froidure, vont s'adapter sur mesure, ne plus donner l'information parce qu'ils vont me dire « si je lui donne l'information qui n'est pas bonne, il me renvoie dans mes basques, donc je n'y vais plus ou j'y vais moins ». Donc c'est une preuve d'inefficacité, un résultat d'inefficacité pour tout le monde. Mais vous voyez, la poire est entre... La poire, elle est coupée au milieu, si vous voulez. C'est que peut faire une entreprise dans un management top-down, ben, c'est à la fois d'agir sur les leaders pour qu'ils se montrent plus souples, plus coopératifs, plus partageurs dans une posture qui serait moins dans la conviction de l'argumentation. Or, je vois beaucoup de leaders qui sont beaucoup dans l'argumentation, et c'est sans doute pour ça qu'ils le sont, mais en précisant, en voulant démontrer leurs idées, ils vont prendre de la place et pas donner la place suffisante à des personnes qui, elles, me disent bah, « qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce type de leader ? Ils m'impressionnent même, donc eux sont parfaits, eux sont géniaux. Moi qui suis, je n'ai pas d'idée. D'ailleurs, quand je vais le voir pour mon idée, il me fait une démonstration. Or, je voulais un échange. » Et donc, je dis aux DRH qui m'écoutent, si vous voulez changer un peu les choses, ce n'est pas les middle uniquement l'action, c'est aussi là-haut que ça se fait. Là-haut, c'est plus de souplesse, leur montrer que le management directif va paralyser des gens qui sont doués. Alors évidemment, vous aurez les extravertis qui ne se gêneront pas pour venir les voir. C'est aussi pour ça que les leaders me disent « j'ai pas besoin de changer, j'ai des gens dans mon bureau ». Mais ils n'auront pas tout le monde. Ils auront la moitié de l'effectif, parce qu'il y a 50% d'extravertis, 50% d'introvertis dans ce pays, selon les gens du MBTI. Donc vous voyez, si vous voulez embarquer tout le monde, ça c'est important. Les leaders, c'est important que vous fassiez des pas pour montrer votre capacité d'écoute, le côté ouverture, le droit à l'erreur, avec des conditions derrière, bien sûr. Mais en dessous, je dirais arrêter de penser que le leader a raison, que le leader est vaillant, que le leader sait tout, que le leader ceci, que le leader cela. Il y a chez des leaders quelque chose qui est un peu différent. Ils peuvent être aussi timides, je l'ai dit. Donc ils ne démontreront pas aux uns et aux autres de la chaleur humaine, et ça va refroidir beaucoup de gens. Mais ces gens-là, eux, ne pensent pas qu'on peut être un leader timide. Et ça, je l'ai entendu beaucoup, là, au mois de septembre. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas se permettre de penser que si je suis arrivé en tant que leader, si il est arrivé en tant que leader ou elle est arrivée en tant que leader, c'est pas possible qu'elle soit timide. Donc, c'est effectivement, elle n'envoie pas de signe de reconnaissance positif. Eh bien, c'est de ma faute, c'est que je ne suis peut-être pas à la hauteur. Vous voyez, et on tourne en boucle. Donc, management top-down, OK. Se mettre à la place des autres pour changer, ça, c'est OK. Mais il faut aussi penser que dans votre état d'esprit, ça ne suffit pas. Si je me mets à la place de l'autre, est-ce que je peux aussi concevoir qu'on est un leader un peu introverti, un peu timide ? Et ça, ça confronte beaucoup de managers qui me disent « Non, c'est pas possible, je ne peux pas le concevoir. » Donc ça, c'est un travail personnel. C'est un travail personnel. Aussi, quand on n'ose pas faire une demande à son leader parce qu'effectivement, le leader semble argumenter, donc management top-down, plutôt qu'écouter, je dis à ces personnes-là, et toi, dans ton style de management, en tant que manager dit middle ici, qu'est-ce que tu penses que pensent les gens de toi, de ton style de management ? Est-ce que tu penses montrer de l'écoute ? Ou est-ce que tu fais la même chose ? Et encore ce matin, on m'a répondu, ben, je ne le pense pas, je pense effectivement que quand je manage mes équipes, je suis plutôt en train de démontrer des choses que d'écouter. Vous voyez, donc, ce qu'on vit dans l'entreprise, c'est comme une cellule humaine. Elle est une, elle est unie. Ce qu'on peut voir de certains managers leaders qui soi-disant n'écoutent pas, qui font du management top-down, donc soi-disant pas adapté de nos jours, effectivement j'y crois, donc plus de souplesse. Mais la remise en question va passer aussi par la remise en question chez le manager, parce qu'il pratique de la même façon, mais il ne le voit pas, il n'en est pas conscient. Derrière ça, qu'est-ce qui se cache ? La peur. Et quand j'entends certains managers middle, effectivement, me dire que lorsqu'ils font des réunions d'équipe, ils parlent beaucoup, derrière ça se cache quoi ? La même chose, la peur d'être vu comme quelqu'un d'insuffisant. Donc ça va être des gens qui vont vous faire plus d'argumentation, plus de la démonstration, de la démo. Et vous avez 7 personnes autour d'une table qui vont se dire « bon, j'ai passé une heure avec elle ou avec lui, mais je n'ai pas pu en placer une. » Ou quand j'ai essayé de poser des questions, j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille dans le sens de la démonstration de mon chef ou de ma chef, de mon responsable. Voilà ce que c'est que le coaching collectif et individuel. Quand on touche quelque part au milieu des managers, on va automatiquement avoir un écho en haut, un écho à tous les niveaux. Et ceux qui vont dire bah, « je ne peux pas accéder là-haut parce que le management est autoritaire », pratiquent même l'autorité. Je vous demande de vous regarder avec beaucoup d'humilité, de dire « et moi, mes équipes, comment me voient-elles ? » Posez-leur la question. Ceci va mettre à fin ce podcast et je vous propose de réécouter et d'être à votre pleine disposition. Et à très bientôt.